Bienvenue à tous dans le Mac de l'été.
Je voudrais voyager, courir, voir quelque chose de vraiment nouveau, parcourir le plus grand segment possible du cercle si borné de la vie, essayer 2, 3, 10, 30 manières de vivre. Ce n'est pas que je veuille imiter Byron, mais je voudrais voir l'Amérique, les îles de la mer du Sud, la grande nature à catastrophe, de jeunes peuples, des villes fraîchement sorties de terre. Je voudrais essayer de tout, me faire planteur aux Antilles, philanthrope aux États-Unis, patriote au Pérou, quaker à Tahiti, pionnier à la Nouvelle-Hollande, puis revenir en Europe, voir si la vieille décrépite radote toujours, si sa fièvre chaude est passée et si elle est parvenue à savoir ce qu'elle veut. Au moins, si la vie m'avait échappé à la fin, ce ne serait pas sans que je l'eusse vigoureusement poursuivi.
Bonjour Bruno Messina.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
C'est une lettre de Berlioz à ses parents.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée musicale dans l'univers d'un des héros du romantisme français dont on commémore cette année les 150 ans de la disparition. Hector Berlioz était compositeur, bien sûr, mais aussi chef d'orchestre, critique musicale, orchestrateur, homme de lettres, une personnalité flamboyante qui eut une vie faite de montagnes russes, de triomphes et d'échecs, pleine de passion tant musicale qu'amoureuse, qui était pour lui les deux ailes de l'âme. Pour l'évoquer, nous avons le plaisir d'accueillir en direct avec nous un éminent spécialiste du compositeur, Bruno Messina, qui est à la fois en charge des commémorations du 150-naire, auteur d'une merveilleuse biographie parue cette année chez Actes Sud et directeur du festival Berlioz de la Côte-Saint-André qui commencera demain pour plus de 15 jours de festivités. Bienvenue Bruno Messina dans le Mac de l'été.
France Inter, le Mac de l'été, Anna Sigalevitch.
Bruno Messina, pourquoi vous avez choisi d'entrer dans l'émission avec ce texte de Berlioz ?
Parce que ça dit un petit peu toute la diversité du talent et des rêves de Berlioz. C'est un gamin d'un village de la Côte-Saint-André qui n'a pas grandi dans un univers de musique, qui a été toujours motivé par l'amour et la musique, comme vous le citiez. À 12 ans, il tombe amoureux. À cause de ça, il se met à la musique.
Ouais.
Voilà, c'est une vie incroyable. Et il a eu des rêves et il a voulu aller au-delà du possible. Et il l'a réalisé. À 20 ans, il rentre au conservatoire. Mais jusque-là, il n'a fait que rêver, ce gamin, depuis l'enfance, sur les genoux de son père qui lui dit lisez Virgile, qui lui lisait des choses, il arrivait du monde, il arrivait des géographies. Et cette lettre, elle nous dit ça et elle nous dit aussi cet espoir d'arriver à quelque chose parce que ses parents n'y croyaient pas, en tout cas ils ne voulaient pas qu'il soit musicien. Et Berlioz y a cru et finalement il y est arrivé. Et 150 ans plus tard, il est enfin fêté dans son pays comme il se doit.
Alors Berlioz a beaucoup écrit en effet des textes à la fois musicologiques, le grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne bien sûr, des études sur d'autres compositeurs, Beethoven, Gluck, Weber, sur la vie musicale, les soirées de l'orchestre, les grotesques de la musique, il y a ses mémoires aussi bien sûr, mais si on laisse un petit peu de côté en fait dans un premier temps l'aspect musicologique et si on se concentre sur lui homme de lettres, on peut dire que c'est vraiment un homme de lettres qui écrivait avec une verve et un style très personnel, foisonnant d'imagination, Bruno Messina.
Absolument. Il y a Roland Barthes qui pensait d'ailleurs qu'il mériterait d'être dans le champ des études littéraires du 19e siècle et qu'il disait c'est dommage, le musicien a caché l'écrivain, mais c'est un grand écrivain et les mémoires, c'est vraiment un grand roman d'aventure du 19e siècle.
On va écouter Berlioz pour commencer dans un des plus beaux airs des Troyens, son grand opéra, à l'acte 4, lorsque Didon et Énée, veufs, tous les deux se sentent en eux renaître l'amour et unissent leur voix dans un sublime duo.
Thank you.
Nuit d'ivresse et d'extase infinie, extrait des Troyens, donc de Berlioz par Joyce DiDonato et Michael Spiers, extrait du coffret hein, paru cette année chez Warner réunissant les œuvres complètes du compositeur, c'est pas rien hein, ça,
ah oui, Bruno Messina. Magnifique projet, ouais. Oui, et qu'on attendait, qu'on espérait. Avec des inédits, avec des choses rares de Berlioz.
C'est oui, comme La Nonne Sanglante, par exemple.
Oui, des extraits de La Nonne Sanglante, qui est cet opéra qui lui a été pris par Gounod, oui. qui finalement était, voilà, qui était plus coté à Paris. Et du coup, Berlioz a eu beaucoup de désillusions comme ça dans sa vie. Mais
ouais.
On voit qu'il y avait, franchement, ça aurait été un très bel opéra et ça fait plaisir d'entendre ces extraits.
Alors, on commence un peu par la fin avec Les Troyens, puisque c'est vraiment une œuvre de la toute fin de sa vie. Mais en même temps, Les Troyens, c'est aussi son enfance, parce que dans Les Troyens, il y a bien sûr l'Énéide de Virgile, dont est inspiré l'opéra, qui fait partie des premières passions de Berlioz, que son père lui lisait enfant, hein, Bruno Messina.
Oui, c'est ce qu'il raconte, Berlioz. Vous savez, il n'est pas allé à l'école, il a passé qu'un an au séminaire. C'est son père qui l'a éduqué de manière un peu rousseauiste, comme ça, à la maison. Son père qui était déjà un personnage singulier. Hein, il a introduit l'acupuncture en France.
Il était médecin,
il n'a pas voulu vivre ni des charges de magistrat ou d'avocat à Grenoble, comme on le faisait quand on devenait riche, et comme l'avait fait le reste de sa famille. Donc c'est déjà un original qui éduque son fils comme ça, et la sensibilité de Berlioz avec l'éducation de son père va faire quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, quand son père lui lit Virgile, il va ensuite s'enfermer dans sa chambre, il pleure comme ça sur le destin de ses héros, et c'est incroyable parce que c'est un opéra qu'il mettra presque 50 ans à créer. En tout cas, c'est une réminiscence de l'enfance, comme souvent l'œuvre de Berlioz, elle s'inscrit dans ce Dauphiné, dans cette Isère natale, dans ces paysage.
Qui est très importante. Et en effet, c'est toute la particularité et l'intérêt, me semble-t-il, de votre biographie. Parce que souvent, on commence à 18 ans, l'arrivée à Paris et les débuts en musique, oui. De Berlioz. Or, vous vous intéressez vraiment à sa biographie dès l'enfance, en fait, dès la naissance, avec, en effet, cet environnement familial, ce père médecin dont vous parliez, qui lui enseigne beaucoup de choses, qui lui enseigne la musique aussi, hein, le flageolet, pour commencer. Quel est cet instrument, le flageolet?
C'est une flûte populaire. Oui. Il commence avec un flageolet, il va avoir toute une collection de flageolets, puis il passe à la flûte en bois, et puis il passera à la guitare à 15 ans. Mais en tout cas, il n'est pas pianiste. Oui. C'est peut-être le seul immense compositeur, comme ça, au 19e siècle, oui. qui n'est pas pianiste, qui n'a rien écrit pour le piano. Et c'est très étonnant aussi parce que voilà, il commence la musique relativement tard, à 12 ans, en amateur, par amour, là, à un âge où des Mozart ou des Mendelssohn écrivaient déjà des symphonies. Voilà, Berlioz, il n'a pas de rapport à l'orchestre. Il va réformer l'orchestre. C'est celui qui va inventer l'orchestre moderne. Il n'y a pas de Moussorgski, il n'y a pas de Ravel, il n'y a pas. Voilà, ce son d'orchestre avec des cuivres et tout ça sans Berlioz. Or, lui, ce qu'il a entendu dans l'enfance, c'est les cloches du village, l'harmonie qui jouait le dimanche, ou encore le bal, puisqu'on dansait évidemment dans les salons des maisons dauphinoises, on dansait le rigodon notamment, et Berlioz dansait dans l'enfance, ça on en est sûr.
Et alors vous écrivez aussi, Bruno Messina, dans votre biographie, que Berlioz ne se découpe pas, que sa vie et son œuvre nécessitent une approche holistique.
Oui, j'en suis convaincu, tout se répond, parce que si on prend des petits bouts, on peut lui faire dire tout et son contraire, d'ailleurs, selon les moments de sa vie, selon ses moments, vous savez, c'est un cyclotimique, donc il y a des moments de grand enthousiasme, et puis des moments d'abattement terrible, donc si on découpe Berlioz, on n'arrive pas à le suivre, on n'y comprend rien. Et puis parce que, justement, il y a ce que nous raconte l'histoire académique, et puis il y a tout ce qui se passe dans les marges, et moi je crois que ces marges, tout ce qui est buissonnier chez Berlioz, son école buissonnière, nous apprend beaucoup sur sa musique, sur ses compositions.
Il faut parler de vous, en fait, Bruno Messina, pour comprendre en fait votre approche de Berlioz, parce que donc vous êtes vous-même né dans une famille de musiciens, vous avez étudié d'abord le cornet à piston puis la trompette, vous avez fait des études au conservatoire, mais très jeune, vous êtes allé en Indonésie, vous êtes allé à Jakarta puis sur l'île de Java où vous étiez pris de Rome aussi, oui,
enfin la Villa Médicis hors les murs.
Pris Villa Médicis hors les murs en 92, et oui. Là vous êtes vraiment intéressé en fait à la musique dans son environnement, et en rentrant à Paris, enfin d'abord à Nice puis à Paris à la Sorbonne puis à l'HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, vous avez étudié l'ethnomusicologie, parce que pour vous, vraiment, la musique est le fruit d'un environnement, un paysage, une culture, une époque.
Oui, et c'est précisément ce qu'on n'avait pas appris dans les conservatoires, en fait. Et en sortant du conservatoire, je suis allé chercher où se trouvait la musique, pourquoi on faisait de la musique, et j'ai découvert cette chose incroyable, qui est une évidence et qui, en même temps, ne s'était jamais posée à moi en tant qu'étudiant, c'est qu'il n'y a pas de société sans musique. Quel que soit le peuple, quelle que soit la civilisation trouvée autour du monde, elle est toujours avec une musique, elle a toujours besoin de musique, peut-être parce que c'est le seul art qui utilise le temps, c'est du temps pur la musique, c'est un problème métaphysique, ça nous permet de régler peut-être cette question-là, et en tout cas c'est absolument fascinant. Et je me suis dit, ben, je vais étudier Berlioz comme un indien dans son village, puisqu'on n'a rien sur son enfance d'un point de vue académique, et ben, je vais voir qu'est-ce que sont les us et coutumes d'un village du Dauphiné au 19e siècle, qu'est-ce qu'on danse, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on écoute, comment on peut se construire et construire son univers musical.
Et vous vous êtes même installé, enfin, donc vous dirigez le festival Berlioz depuis 10 ans et vous êtes installé en Isère.
Et je me suis installé en Isère et je suis bien heureux d'y être. Vous savez, c'est très beau. On a des paysages incroyables et puis il y a cette plaine de la Bièvre avec ce Vercors, Belledonne, la Chartreuse, tout ce paysage. Il y a Paul Claudel, une fois, il avait entendu dans les années 30 la damnation de Faust sous la halle médiévale de la Côte Saint-André et il avait vu ce paysage ensuite et il avait dit mais toute la partition c'est ce paysage. Berlioz n'a eu qu'à puiser dans le paysage. Voilà ce qui fait sa musique.
Alors, il faut qu'on parle de l'amour chez Berlioz, qui est absolument fondamental. Donc, à 11 ans et demi, à la Côte Saint-André, il rencontre l'amour en la personne de Estelle,
qui est plus grande que lui. Oui, il est déraisonnable. Hein. Il est déjà déraisonnable parce que quand on a à peine 12 ans ou pas encore 12 ans, on tombe pas amoureux d'une jeune fille qui en a presque 18. En tout cas, elle s'intéressait pas à lui. Elle regardait plutôt des hussards napoléoniens. Elle cherchait plutôt un bon parti comme ça. Et tout le monde se moque de ce petit Berlioz. Et lui, il va construire. Alors, il est cabot, Berlioz, parce qu'à la fois il est franchement amoureux, mais il va construire aussi. Il se met tout le temps en scène. Hein. Ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup, nous dira Berlioz, et en effet il joue avec ça.
Et on vous a dites des que lettres... c'est constitutif de la légende berliozienne hein, dès le départ, cette rencontre où il tombe, vous dites dans votre livre, il tombe amoureux de l'amour.
Il tombe amoureux de l'amour parce que, alors il va casser les pieds à toute sa famille avec Estelle, mais ensuite on verra que ce sera Henriette, ensuite ce sera Camille, ensuite ce sera une choriste en Angleterre, en Russie. Ce sera Marie Recio qui va le faire voyager jusqu'à l'Angleterre, enfin ce sera même Viardot à un moment parce qu'il travaille avec elle et il peut pas s'empêcher de tomber amoureux et elle dit mais c'est pas possible.
Mais
il est incorrigible, Berlioz. Et à la fin de sa vie, cette Estelle qui veut dire l'étoile en italien, la stella, c'est son étoile des montagnes, il retombe amoureux, c'est-à-dire il va la revoir. On sait que pendant sa vie, il a continué de lui écrire, parfois de manière anonyme, comme un gamin alors qu'il était marié. Il va la revoir à la fin de sa vie, il retombe amoureux, il lui promet
encore. Elle pas trop, par contre.
En fait, elle est touchée par tout ça. Elle se dit mais c'est incroyable. Toute sa vie, il m'aura couru après. Mais voilà, elle lui dit mais calmez-vous, mon cher ami, calmez-vous. Mais en tout cas, elle est touchée, elle est sensible à ça, oui.
Alors donc Berlioz à la Côte Saint-André quitte la Côte Saint-André quand même à 18 ans pour s'installer à Paris officiellement pour faire des études de médecine comme l'attend sa famille. Oui. Or bon, il a l'air moyennement assidu au cours de médecine et par contre, il devient complètement obsédé par la musique, il dévore des parties. Et là, il rentre au conservatoire. Oui. Avec Jean-François Le Sueur.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, il triche un peu, hein. Il fait croire à ses parents qu'il va aller faire médecine. Oui. Il n'en a pas l'intention, ça, on le sait depuis qu'il a 15-16 ans, parce qu'il envoie déjà des partitions à Paris, il veut déjà être édité. Et en effet, il va découvrir la musique de Le Sueur. Au début, il va beaucoup aimer, d'ailleurs, ce professeur qui, comme lui, vient d'un milieu agricole et qui va sans doute savoir lui parler alors qu'il s'entendait si mal avec le reste du milieu parisien, avec qui il sera toujours en lutte, hein, presque toute sa vie durant. Mais c'est la surprise, de l'opéra. Il va être fou d'opéra, il va tout aller voir, tout
premier
ce qui est possible.
Iphigénie en Tauride.
Oui, la musique de Gluck et Beethoven. Ça, c'est vraiment ces deux grands inspirations musicales. Il y aura Weber aussi, qui est important pour lui. Et puis le théâtre. Le théâtre, c'est Shakespeare, après avoir été inspiré par l'écriture de Virgile, avoir lu La Fontaine. Enfin, il a eu tous les classiques. Mais le grand coup de tonnerre dans sa vie, il nous parle comme ça d'un coup de tonnerre, c'est Shakespeare. Comme tout le milieu romantique, d'ailleurs, hein, que ce soit Victor Hugo et tout le monde, on découvre Shakespeare au début du 19e siècle en France, et c'est vraiment un grand choc pour tout le monde.
Alors, il présente comme tout jeune compositeur le prix de Rome, hein, qui était à l'époque le sésame des jeunes compositeurs. Premier échec, deuxième échec, troisième échec, quatrième échec. Finit par avoir le premier prix au bout de la cinquième fois. Il était déjà un peu en dehors des clous.
Écoutez, c'est un bel exemple. Moi, je trouve que c'est très lacanien. Ça réussit par où ça rate avec Berlioz en permanence. Et c'est un bel exemple pour tous les cancres. Finalement, on finit par y arriver. Mais par contre, ça arrive au mauvais moment. Parce qu'en 1830, il écrit aussi la Symphonie Fantastique. fantastique. Et du coup, après son prix de Rome, il a le succès de la fantastique. Il a plus du tout envie de partir à Rome, plus du tout. C'est le début du succès à Paris et il est obligé parce que sinon il perd une bourse et c'était 5 ans comme ça de financement. Il y avait 2 ans à Rome, il y avait ensuite un voyage en Allemagne. Il y avait.
En plus, donc, il voulait se marier à l'époque.
En plus,
avec
il était amoureux de Camille qui est vraisemblablement son premier grand amour charnel, on dira, donc qu'il a vraiment. Et donc il part à Rome et il apprend par la maman de Camille, elle lui envoie une lettre en disant en gros qu'elle a pris un meilleur parti, qui est Camille Pleyel, le facteur de piano. Et alors Berlioz est fou de rage et il décide d'aller l'assassiner, et la mère, et la fille, et l'amant, et lui-même par la même occasion. Vous savez, il a toujours 2 pistolets avec lui, Berlioz. C'est quand même un compositeur singulier. Hein. Voilà. Et donc il dit qu'il a 4 balles et puis il prend du poison au cas où le pistolet s'enraye. Enfin, il avait tout prévu. Mais heureusement, il n'y avait pas l'avion. Et le voyage depuis l'Italie jusqu'à Paris, ça fait du temps. Il est passé par Nice et devant la beauté de Nice et des femmes et de la mer, etc. Il décide de se remettre à la musique et c'est tant mieux pour nous et pour lui.
Et pour lui. Alors 1830, vous le disiez, Bruno Messina, c'est l'année de la création de la symphonie fantastique. On en écoute un extrait. C'était un extrait, on chante, hein, pardon, oui, dans Berlioz, Bruno Messima, du deuxième mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, un bal par François-Xavier Roth, à la tête de son ensemble Les Siècles. C'est une œuvre qu'ils joueront en clôture du festival Berlioz à la Côte-Saint-André le 1er septembre. Alors nous sommes donc en direct avec vous, Bruno Messima, qui est le directeur du festival, grand spécialiste de Berlioz. Bon, la symphonie fantastique, donc en cinq mouvements, fait partie d'un genre qu'on appelle musique à programme. Qu'est-ce que ça veut dire, Bruno Messima, une musique à programme?
Ça veut dire qu'il nous raconte une histoire, tout simplement. C'est une musique imaginogène, c'est Hollywood, avant le cinéma. Berlioz nous dit qu'il y a cinq mouvements et c'est un artiste qui est tombé amoureux. Finalement, c'est un peu un double de Berlioz. Il est tombé amoureux, il prend de l'opium parce que rien ne va pour lui, et puis il fait un délire à l'opium, c'est un very bad trip, quoi. Et à la fin, il finit avec les sorcières. C'est ça que nous raconte la voilà, c'est dans un sabbat de sorcières, et c'est ça que nous raconte la symphonie fantastique, et c'est saisissant pour l'époque, c'est incroyable, c'est un succès vraiment fou, hein. Ça, pour le coup, il a pas tout réussi, mais ça, Berlioz, ça a été un vrai succès de son vivant, même en France. Et après ça, il va inspirer tous les romantiques, parce que ça va être un genre en soi, la musique à programme.
Donc il donne en fait un programme aux spectateurs qui viennent assister à la présentation.
Il souhaite que le public le connaisse, ce programme, hein, qu'il ait vraiment le texte avec le premier mouvement, les rêveries passion, le bal du deuxième mouvement, la scène au chant, troisième mouvement, ensuite, il y a la marche au supplice,
le quatrième
mouvement, et puis le cinquième avec ce sabbat de sorcière.
Et vous avez toute une théorie sur la symphonie fantastique, Bruno Messima.
C'est-à-dire que je pense qu'elle peut être expliquée uniquement à partir du Dauphiné et de l'Isère.
Voilà, l'ethnomusicologie, on y revient.
Parce que les musicologues nous disent toujours, alors les grandes références romantiques, Victor Hugo pour la peine de mort, etc. Mais il ne s'agit pas de peine de mort, il s'agit d'un supplice. Le supplice, ça n'existe plus à l'époque de Berlioz et au moment où il écrit ça. Par contre, il y a eu un grand supplicié en Isère, dans le Dauphiné, quelques années auparavant, c'est Mandrin. Mandrin, le contrebandier. Hors de la fenêtre de la chambre de Berlioz, on voit le village de Mandrin. Et j'ai trouvé dans les archives qu'il y a eu un procès entre la famille Berlioz et Mandrin. Voilà, donc j'aime bien tirer ces fils-là. Je sais qu'il y avait des sabbats de sorcières autour de la Côte-Saint-André dans les bois. Donc je me dis, il n'a pas eu besoin de la littérature romantique à Paris pour y penser. Voilà. Mais en tout cas, cette idée, Berlioz va continuer, que ce soit dans toutes ses symphonies, que ce soit la symphonie funèbre et triomphale. On lui commande ça en 1840 pour les insurgés qui étaient morts, les 500 en 1830, les journées de juillet à Paris. Et il va suivre le programme, c'est-à-dire ça va du Louvre jusqu'à Bastille. Et il écrit une symphonie en mouvement dans les rues de Paris qui va du Louvre jusqu'à Bastille. Quand on lui demande Roméo et Juliette, là il écrit quelque chose où il n'y a pas Roméo et Juliette. C'est-à-dire il y a des solistes, on dit, c'est Roméo, c'est Juliette, évidemment, il y a une diva. Non, c'est pas ça. Ils sont pas là, eux. Ce sont des narrateurs secondaires. Pourquoi? Parce que leur amour est indicible et donc c'est de la musique pure. C'est génial. À chaque fois, il y a des idées comme ça incroyables avec Berlioz dans toutes ses œuvres. Et puis Harold en Italie qui nous raconte un parcours. On y reviendra après.
Restons un tout petit peu sur la symphonie fantastique, qui est quand même révolutionnaire à plusieurs égards. Oui. En effet, dans le fait que la musique a programme, mais aussi dans l'organisation de l'orchestre, la spatialisation, l'utilisation des formes du 19e, mais qu'il réinvente complètement. Les résolutions sont complètement inhabituelles pour l'époque.
Oui, d'un point de vue de la construction, c'est ce qui fait dire quelquefois que Berlioz maîtrisait mal l'écriture. Moi, je pense qu'il a maîtrisé très bien, d'autant qu'il a commencé par l'écriture. Berlioz, il a appris dans les livres, dans les bibliothèques, avant même d'avoir un cours de musique, il connaissait toutes les partitions par cœur. Donc, il n'y a pas d'erreur. Mais Liszt disait, par exemple, il prend l'harmonie, il la coupe en deux. Il y a des surprises, il y a des résolutions qui sont curieuses, il y a des jeux avec le rythme qui sont tout à fait inattendus à cette époque dans l'histoire de la musique. Et puis il y a une utilisation des instruments qui n'étaient pas les instruments nobles de l'orchestre. Tout d'un coup, il met en avant le hautbois, il met en avant le cor anglais, il met les harpes devant le public, devant l'orchestre. Enfin, c'est incroyable
isolé. Après, tous les compositeurs vont utiliser ce type de formation.
Il y a vraiment un avant et un après Berlioz. Il l'écrit dans le traité d'orchestration. Il devient ainsi le père de la musique russe, par exemple. Vous savez, dans ces Moussorgski et tous le groupe des cinq, tous les grands Russes, Rimsky-Korsakov, etc., sont allés puiser là-dedans. Ils avaient besoin d'un modèle affranchi du modèle italien ou du modèle prusse, et ils sont allés chercher Berlioz, qui était l'iconoclaste, qui était pas tellement revendiqué par les Français. Il y a vraiment un avant et un après. Il invente l'orchestre moderne, le son d'orchestre tel qu'on le connaît après.
Aujourd'hui, alors la carrière de Berlioz, elle a eu de grands succès, comme avec la Symphonie fantastique, mais de grandes déconvenues aussi. Enfin, ça a été complètement chaotique, fait de hauts et de bas. En en permanence. Par exemple, Benvenuto Cellini, son opéra que vous avez joué cette année, ça a été un désastre.
Ça a été un désastre, ouais. Malheureusement, parce qu'en plus, il y avait des airs tout à fait joyeux, magnifiques dans ce Benvenuto Cellini. Victor Hugo, d'ailleurs, lui avait dit de ne pas laisser tomber qu'il tenait le bon bout, que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais en effet, il y a eu cette déconvenue, il y a eu celle de la damnation de Faust aussi, c'était pas rien.
Par contre, a eu beaucoup de succès ailleurs.
À l'étranger. Absolument. Balzac lui dit au lendemain, il lui dit
en Russie, ça a très bien marché.
Et c'est un succès incroyable. Il y a deux pays, et c'est pour ça qu'on les fête d'ailleurs au Festival Berlioz cet été. Il y a l'Angleterre avec Johnny Lloyd Gardiner, il y a la Russie avec Valéry Gergiev ou encore Tougan Soukiev avec le Capitole de Toulouse.
Ça, c'est incroyable. Vous avez quand même réussi à faire venir Valéry Gergiev à la Côte Saint-André. C'est bravo. C'est quand même un des chefs. Peut-être le chef le plus demandé au monde.
Mais c'est par amour de Berlioz, je crois, qu'on arrive à les faire venir, parce que tous ces grands chefs adorent Berlioz. Ils savent que c'était un musicien désintéressé qui a tout mis dans sa musique. Et donc voilà, on leur dit, vous venez dans le lieu où il a grandi, et ça participe de les séduire et déjà de les emmener avec nous.
Alors il y a un chef qui a été un des premiers à défendre Berlioz, c'est Colin Davis. Oui. On va écouter, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, c'est Harold en Italie par Colin Davis. Un extrait d'Harold en Italie, donc de Berlioz, dirigé par Colin Davis et à l'alto Yehudi Menuhin. C'est une des plus belles œuvres pour alto, Bruno Messina. C'est vraiment la délicatesse de l'écriture de Berlioz qui se déploie ici, qu'on entendra chez vous au Festival Berlioz par Lawrence Power le 22 août, c'est
ça ? Le 22 août, ouais. Jeudi 22 août, et c'est une œuvre extraordinaire parce que c'était une commande de Paganini qui voulait un concerto pour briller à l'alto, et il est très déçu au début parce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il a fait là, Berlioz ? Et en fait Berlioz il a révolutionné le concerto, c'est une symphonie avec alto et c'est un dialogue permanent. Moi c'est avec ça que je suis tombé en amour pour Berlioz, parce que cette œuvre était un vrai dialogue, c'était pas un combat d'ego comme parfois on peut en trouver dans les concertos, il y avait vraiment un grand dialogue, et puis il y a des pages orchestrales extraordinaire dans cette symphonie.
Et donc, Colin Davis, je vous propose qu'on écoute Bruno Messina sur Berlioz. Ah, on l'a pas, donc on va pas l'écouter tout de suite. Donc on va dire que Colin Davis était donc un ardent défenseur de Berlioz. Et dans cette archive, en fait, il explique qu'il comprend pas pourquoi en France Berlioz est si peu reconnu. Donc c'était en 2005, donc c'était il y a 15 ans. En 15 ans, les choses ont quand même beaucoup changé.
Oui, les choses ont beaucoup changé. Et puis les Anglais exagèrent ça. Je me demande si ça vient pas de ces vieux conflits amicaux entre la France et l'Angleterre, où les Anglais aiment bien dire qu'ils ont tout fait pour Berlioz et que les Français n'ont rien fait. C'est pas tout à fait vrai non plus. Et en tout cas, désormais, Berlioz est tout à fait prophète en son pays. On l'a vu à l'Opéra de Paris. Les Troyens, c'était sold out. Ça a très bien marché. Les week-ends de la Philharmonie de Paris ont très très bien marché. Ça marche aujourd'hui. Berlioz,
on le voit
au festival. C'est assez récent. Ça n'a cessé de croître. Mais comme me le disait Valérie Gergiev, il n'y a pas que les Anglais, les Russes aussi, on a fait beaucoup. Et puis voilà, moi j'aime à dire que les Français ont fait beaucoup
aussi.
Et
alors vous n'y êtes pas pour rien quand même aussi, Bruno Messina, parce que donc vous dirigez le Festival Berlioz depuis 10 ans. Oui. En 10 ans, vous avez triplé la fréquentation du festival. Donc c'est quand même important. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette édition ? Donc vous avez commencé l'année dernière les commémorations, si je puis dire, avec en appelant l'édition de l'année dernière Sacré Berlioz. Cette année, donc c'est le roi Hector.
Voilà, Berlioz est sacré maintenant.
Oui.
C'est le sacre de Berlioz. Oui. C'est le roi Hector. C'est un clin d'œil aussi à l'Énéide, aux Troyens, dans lesquels il y a ce roi Hector qui va se battre avec Achille. Et puis on commence par une grande fête populaire, parce qu'il y a ça aussi au Festival Berlioz. À la fois, il y a une grande exigence dans la programmation musicale. On voit des grands chefs, des grandes divas. Stéphanie Doustrac qui sera là pour plein de concerts cette année.
Qui a été une Cassandre absolument géniale dans les Troyens.
Cassandre, absolument.
Et
on est très très heureux de la voir.
Il y a un disque d'ailleurs qui est sorti avec elle.
Oui. Et donc voilà. Il y a à la fois cette exigence musicale et à la fois une vraie fête populaire dans un village où on danse, où on peut danser le rigodon, on peut danser d'autres choses. Et là, on attaque dès demain avec une grande fête. On a construit un cheval de Troie, figurez-vous. Comment on fait la prise de Troie le 25 août avec François-Xavier Roth et le jeune orchestre européen Hector Berlioz Isère, qui est notre orchestre de jeunes qui viennent de toute l'Europe pour travailler sur instruments d'époque. On a construit un cheval de Troie avec la population. Et demain, on fait un petit peu comme dans la légende. On va faire une nuit de fête autour de ce cheval, mais il n'en sortira pas Ulysse et des soldats grecs, mais il en sortira des musiciens.
Parce que la prise de Troie, il faut préciser que c'est donc la première partie des Troyens que Berlioz n'a jamais vu.
Que Berlioz n'a jamais entendu, parce qu'on l'avait obligé à un découpage à Paris. Donc il a fait deux petits opéras cohérents, la prise de Troie et les Troyens à Carthage. En fait, le tout, ça donne les Troyens. Et cette année, on fait la prise de Troie et l'année prochaine, on fera les Troyens à Carthage.
Vous ferez les Troyens. Oui. Donc il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a notamment une création mondiale, Euphonia 2344.
De Michael Levinas. Oui. Je suis très très heureux. Michael Levinas, grand compositeur, a accepté de travailler sur ce texte de Berlioz qui le fascinait. Et c'est un texte de science-fiction, parce que Berlioz a écrit des nouvelles, et il a écrit des nouvelles du futur, des nouvelles de l'avenir, il disait. C'était la science-fiction, et c'est incroyable parce que c'est déjà Orwell, 100 ans avant Orwell, parce qu'il invente une société qui est toute surveillée pour le bonheur des gens. Enfin, c'est assez incroyable. Berlioz, le talent de Berlioz est vraiment très polyvalent, très polymorphe.
Et donc, ce sera aussi mis en scène par Stanislas Nordet. C'est un vrai spectacle, c'est ça que vous proposez.
C'est un spectacle qui est fait. Alors, c'était une sorte de mélodrame. À la manière de Berlioz, on n'est pas dans un grand opéra avec un grand déploiement. Michael Levinas a voulu vraiment travailler sur une petite forme très berliozienne.
Est-ce qu'il y a un autre spectacle, une autre soirée donc qui compte beaucoup pour vous ?
Écoutez, c'est très difficile parce qu'il y en a beaucoup, toutes comptent. Et évidemment, il y a la damnation de Faust avec le Capitole de Toulouse. On est très content. Orphée, parce que c'est dans la version de Berlioz, mais c'était une des grandes références de Berlioz.
De Gluck.
Voilà, que dans la version de Berlioz, il y a ce jeune orchestre parce que c'est vraiment une aventure que j'ai créée avec François-Xavier Roth au festival et qui ne cesse de croître. Et puis puis, il y a les moments de fête sous le balcon d'Hector. C'est dans la maison de Berlioz où on entend des musiques populaires, ou le soir à la taverne, puisque Berlioz s'ennuyait terriblement dans la caserne académique de la Villa Médicis et il allait écouter les musiques populaires dans les tavernes. Donc, c'est très difficile pour moi de choisir une soirée, mais tout se répond.
Très, très riche, varié et cohérent en même temps.
J'espère, oui.
Bruno Messina, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Oui. Mais alors, je vous propose que vous essayiez plutôt de brosser celui de Berlioz. Est-ce que vous voulez bien ?
Je vais essayer, okay. Oui.
Bruno Messina, si Berlioz était un mot ?
Passion.
Si Berlioz était un instrument ?
L'orchestre.
S'il était un héros de la littérature.
Aîné.
Est-ce que Berlioz était un ami pour lui-même ?
C'était son pire ennemi.
S'il était un trait de caractère.
Cyclotimique.
Quel a été le plus grand amour de Berlioz ?
L'amour.
Si Berlioz, je sais que c'est difficile, mais était une seule de ses œuvres.
Ah, ça c'est vraiment difficile, c'est vraiment très difficile. Je dirais peut-être la Symphonie Fantastique, parce qu'elle est à un moment charnière de son œuvre. Ou les Troyens, parce qu'on retrouve à la fois Gluck, on retrouve à la fois le passé et l'avenir.
L'enfance avec Virgile.
Oui, et même en termes d'écriture, on trouve le passé et l'avenir, on trouve un petit peu tout Berlioz. Mais il faut aussi écouter ce Requiem avec la spatialisation du son. Il faut un petit peu tout entendre chez Berlioz. Il n'y a pas deux œuvres les mêmes. Il y a de la dentelle aussi. Vous savez, on parle toujours de la démesure, mais il faut entendre l'enfance du Christ ou les nuits d'été, où il invente la mélodie française aussi.
Oui, les nuits d'été, on n'en a pas parlé, qui seront aussi au programme du festival.
Qui seront au programme, en écho avec des nuits d'été d'aujourd'hui,
créées par Arthur Lavandier
et Frédéric Boyer à l'écriture. Je suis très heureux de cette création. Et puis les nuits d'été de Berlioz sur les textes de Théophile Gautier, ça sera une très belle soirée là encore.
Si, selon vous, quelle serait la devise favorite de Berlioz, Bruno Messina ?
Alors, la devise favorite de Berlioz, écoutez, il dit « Ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup ». Il dit ça, il dit « L'amour et la musique sont les deux ailes de l'âme ». Il a quelques phrases. Il dit que la musique a tous les droits, que tout est permis en musique.
La musique est libre,
elle fait ce qu'elle veut. Voilà, peut-être c'est ça. La musique est libre, elle fait ce qu'elle veut.
Merci beaucoup Bruno Messina, c'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du MAC de l'été. Le mythique club de jazz, le Baiser Salé rue des Lombards à Paris, accueille pour la 13e édition le festival estival de jam. De nombreux musiciens ont été découverts dans ce temple du jazz, comme Angélique Kidjo ou plus récemment Blic Blassi. Alors depuis le 4 août, des soirées musicales ouvertes à tous y sont organisées. Après les concerts, on prend d'ailleurs plaisir à discuter avec les musiciens entre le club et le petit bar. Rendez-vous donc demain soir à 21h pour un hommage à Nick Drake qu'on écoute. Cet artiste exalté à la gloire posthume qui suscite toujours par sa voix et la richesse aussi de ses harmonies, la fascination. Bon baiser salé.
Bodo, bodo, bodo.
Pour succéder à la saison culturelle Paysage Bordeaux de 2017, la ville propose cette fois une thématique autour de la liberté. La liberté héritée du siècle des Lumières, mais aussi la liberté dans l'eau, de l'océan à l'estuaire de la Gironde. Tous les établissements culturels de Bordeaux ont agencé leur programmation et proposent une centaine de projets artistiques, 25 expositions, des cartes blanches à des artistes, ainsi que des parcours patrimoniaux dans des lieux historiques de la ville. Ce sont les derniers jours pour en profiter, alors rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 20 août, avec le spectacle Ex Anima de Bartabas qui clôturera la saison. Crinière de chevaux dans un vent de liberté. Il y a un an, jour pour jour, nous perdions la voix soul d'Aretha Franklin. Figure de proue des droits civiques, elle a toujours été perçue comme une femme forte, artiste et mère très jeune. Elle s'est vite confrontée à la vie, au racisme et à la ségrégation. Issue de la culture gospel, son père révérend l'a incité à chanter très jeune à l'église, où sa voix transperçait chaque cœur. Qui n'a jamais frissonné au son de sa voix, Bruno Messina?
Ah oui, non, non, bien sûr.
On l'écoute encore un peu dans « I say a little prayer ».
Le Mac de l'été sur France Inter.
Bruno Messina, est-ce que vous êtes sensible à certaines de nos propositions?
Ah bah oui, absolument. Absolument.
Le jazz est très important, vous avez appris aussi le jazz.
Oui, j'ai fait aussi la classe de jazz au CNSM de Paris, après le classique. Moi j'embrasse les musiques très largement. C'est la musique qui m'intéresse sous toutes ses formes et notre capacité à créer de la musique.
Et en Indonésie, vous avez découvert vraiment une musique qui vous a aussi nourri beaucoup.
Oui, parce que c'était un objet social, et c'était une musique savante et populaire à la fois, où dans un gamelan, par exemple, cet orchestre javanais, un gamin pouvait se joindre à un grand-père, et je trouvais là une possibilité incroyable. Quelqu'un qui avait pratiqué depuis 30 ans, 40 ans, pouvait jouer à côté d'un gamin, ce qui n'était pas possible dans notre musique.
Dans notre musique, oui. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle, Bruno Messina?
Première grande émotion culturelle, c'est peut-être mes grands-parents siciliens et les chansons à la fin des repas ou mon grand-père au piano jouant un boléro.
Et la musique en famille, ça a beaucoup compté. Vous êtes construit
comme
ça.
Oui, la musique a construit notre famille. Et puis mes parents, quand ils sont arrivés en France, ne croyaient qu'en ça parce qu'ils n'avaient pas autre chose de toute façon. Et donc il y a mon frère, ma sœur, on est tous musiciens et on a grandi en musique. Oui.
Votre frère donc clarinettiste, votre sœur flûtiste et vous trompettiste.
Et moi j'étais trompettiste, oui.
On écoute, avant de se dire au revoir, une jeune femme qui est très à la mode cette année, Angèle, avec son tube « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal, 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal, j'ai vu que le rap est à la mode, et qu'il mange mieux quand il est sale, faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. laisse-moi te chanter.
Balance ton quoi par l'incontournable chanteuse de l'année, Angèle. Merci beaucoup Bruno Messina d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. C'était passionnant de vous entendre. Je rappelle que le festival Berlioz de la Côte Saint-André commencera demain jusqu'au 1er septembre. Et je recommande à tous les auditeurs de courir acheter votre biographie Berlioz parue chez Actes Sud. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son Michel Bézikian. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.